ce matin, nous allons faire un lien entre la maternité et puis la fin du monde. La mère, l'enfant et le dragon. Non, ce n'est pas un conte de fées, c'est un récit qui vient de la Bible et qui se trouve dans Apocalypse chapitre 12. Donc, ceux qui veulent suivre dans leur Bible ou leur appli biblique, vous pouvez tourner à Apocalypse ou cliquer à Apocalypse 12. Et en fait, on va le faire en deux parties. Donc, on va faire le deuxième thème important de Apocalypse 12 la semaine prochaine. Mais lisons déjà le texte ce matin. Mais d'abord, prions. Père, calme nos cœurs, calme les voix qui tonnent à l'intérieur de nous pour entendre ta voix et être guidé par ton esprit qui désire tant nous parler. Et tu nous parles tous ensemble avec une voix unique, souvent, et des fois aussi, souvent même, tu vas parler individuellement à chaque personne, par exemple, pour la mise en pratique de quelque chose que j'entends aujourd'hui qui va être spécial pour moi et différent pour quelqu'un d'autre. Alors, rends-moi aussi, en tant qu'individu, sensible à ta voix ce matin, Seigneur. Au nom de Christ. Amen. Alors, Apocalypse 12, on va commencer au début du chapitre et c'est un récit qui ressemble un peu au récit des contes de fées. Et Dieu utilise toutes sortes de textes, de genres de textes différents pour nous enseigner sa vérité. Écoutez cette histoire qui est au milieu du livre de l'Apocalypse. Un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait, car elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle qui doit diriger les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert, où Dieu lui avait préparé une place afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais les œufs des deux ailes du grand aigle furent donnés à la femme. Les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers l'endroit où elle doit être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Pardon. Alors le serpent vomit de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme afin qu'elle soit entraînée par le courant. Mais la terre secourut la femme, elle s'ouvrit et engloutit le fleuve. Ça, c'est la terre. Hein? La terre s'ouvrit et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Amen. Peut-être que vous dites « Amen » et vous ne comprenez pas. C'est correct. On va essayer d'expliquer. J'espère qu'on va réussir à clarifier certaines choses. Moi, j'aimerais commencer en vous parlant de quelque chose que j'ai appris de ma maman à moi. Ma maman s'appelle Suzanne, Suzanne de Banet. Enfin, son nom de jeune fille, c'était Trichler. C'est la maman qui m'a élevée. C'est ma mère biologique aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai appris d'elle? C'est que, beaucoup de choses, mais entre autres, quand elle était soumise à des tensions dans sa vie, elle trouvait la manière, au milieu de la tension, une manière d'avancer et d'améliorer les choses. Et elle trouvait ça d'une manière intelligente et appropriée. Alors, le mot « tension » est important ici. Qu'est-ce que c'est qu'une tension? Eh bien, voici un foulard de Cheryl. Alors, tension, ça veut dire quand deux forces qui vont dans des directions opposées sont appliquées au même objet. Alors, moi, je tire de ce côté-là avec ma main gauche et de l'autre côté avec ma main droite et j'applique de la tension au foulard. OK? Et le foulard, il est fait pour en prendre la tension. Pas trop, mais en mettant le foulard sous tension, eh bien, ça le rend, en fait, plus ferme. C'est ce que je voyais en ma mère dans beaucoup de situations. Dans la tension, ma mère réussissait à survivre, et non seulement à survivre, mais à être rendue plus forte et à trouver des solutions. Je vous donne un exemple. Quand j'avais 18 ans environ, mon père décide de quitter la sécurité de son emploi permanent, et il se lance dans la business, il se lance dans l'immobilier. Les hommes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais il y a des femmes qui font ça aussi, mais en tout cas, mon père avait décidé de faire ça. Le futur était devenu incertain, parce que c'est quand même un domaine difficile. Ma mère, tout en soutenant mon père là-dedans, a décidé de retourner discrètement aux études. Elle était restée soumise à son mari. C'était comme ça qu'elle était entrée dans le mariage et elle était restée fidèle à cette vision des choses. Et elle portait aussi pas mal du poids du fonctionnement quotidien de la famille et du foyer. Mais elle prenait des cours, elle avançait. Elle est devenue une bibliothécaire quelques années plus tard, pour commencer à travailler à temps partiel. Et à la longue, quand la business de mon père a commencé à avoir des grosses difficultés, eh bien, le travail de ma mère était d'une grande aide financière pour la famille. J'ai appelé ma mère hier pour lui demander si c'était correct que je raconte cette histoire. J'ai pas parlé à mon père, j'ai parlé à ma mère. Mon père, il s'est débrouillé. Mais là, aujourd'hui, c'est la fête des mères. Et je pourrais vous dire des belles choses sur mon père aussi un autre jour, mais j'ai demandé à ma mère, elle a dit, « Mais tu sais, Marc, oui, tu peux raconter ça. » Elle m'a dit deux choses. Elle m'a dit, « Je l'ai fait aussi pour mon épanouissement personnel. » Et moi, je me suis dit, « Mais ça, c'est intelligent aussi. » Parce qu'il y a l'équilibre de la famille, mais il y a mon équilibre à moi aussi. Je parle de ma mère. Ça lui a fait du bien de faire quelque chose qu'elle a toujours voulu faire, mais n'a jamais pu. Elle a dit une autre chose. Et n'oublie pas, Marc, je n'étais pas la seule. Beaucoup de femmes de ma génération, à cette époque-là, et de maman, ont fait ça, ou quelque chose de semblable. J'ai dit, mais c'est correct, je vais le raconter pareil parce que c'est la fête des mères. Donc, si ce que tu fais, tu n'es pas la seule maman qui l'a fait, bien, c'est encore mieux pour mon sermon. Alors, voilà, toujours est-il que j'ai vu dans ma mère, dans cette situation, elle était capable de se soumettre à la réalité réelle de ce qui se passait, avec toutes les difficultés que ça amenait. Mais en même temps, ce qui tirait dans l'autre sens, son désir d'améliorer la réalité. Hein? La réalité concrète, son désir de faire quelque chose selon ses capacités, quelque chose de réaliste. Et elle l'a fait. Elle a trouvé un moyen sage, intelligent pour agir. Puis ça m'a aidé dans ma vie plus tard, parce que j'ai été dans des situations semblables et puis j'ai essayé de suivre son exemple de sagesse. Dans notre texte d'aujourd'hui, Dieu, il nous donne l'histoire qu'on a lue tantôt pour encourager les chrétiens dans leur combat, dans les tensions qu'ils vivent dans le monde d'aujourd'hui, dans le combat spirituel aussi. Et pour faire cela, Dieu nous donne, à travers le prophète Jean, un signe ou un symbole. Puis c'est une maman, quand même assez extraordinaire. Une maman. Et ce signe symbolise, en fait, une maman spirituelle qui est, selon la plupart des interprètes, c'est le peuple de Dieu. Donc, la maman spirituelle dans ce texte d'Apocalypse 12, c'est le peuple de Dieu. Donc, Dieu nous a donné une sorte de maman spirituelle pour nous aider à tenir bon dans la vie chrétienne, pour être inspiré aussi à suivre son exemple. En tout cas, l'exemple qu'on va voir dans le texte. Dans les tensions de la vie, comme elle, nous devons tenir bon, trouver le moyen d'avancer avec la bonne perspective. Alors, je disais, pour le moment. Et est-ce que quelqu'un a vu qu'est-ce que j'ai fait de ma télécommande? Ah, elle est là dans ma Bible. Très bien. Vivre et fleurir dans les tensions. Nous sommes appelés à imiter la maman spirituelle qui est dans ce texte. Quand je dis qu'elle est le peuple de Dieu, cette femme, disons, c'est l'Église invisible. On avait parlé une fois précédente, de l'Église invisible. Donc, c'est l'Église en quelque sorte réelle, hein, parce que l'Église que nous voyons, c'est un mélange d'Église réelle et puis de beaucoup de défauts. On doit tourner nos yeux vers l'Église dans sa forme telle que Dieu la voit, dans toute sa pureté. On pourrait l'appeler l'Église invisible. Et elle existait, cette Église invisible, ce peuple spirituel de Dieu. Elle existait sous la forme d'Israël avant que Jésus vienne. Ce peuple existait aussi dans la communauté de disciples qui a marché avec Jésus sur la terre, qui l'a accompagné jusqu'à la croix. Et puis nous, aujourd'hui, nous sommes ce peuple de Dieu, c'est-à-dire les saints en Jésus-Christ. Et le livre d'Apocalypse parle beaucoup des saints en Jésus-Christ. Et nous sommes le peuple de Dieu qui combat dans les derniers temps. Alors, dans ce texte, quand on parle des derniers temps, il y a un code, on parle de 1260 jours. Vous avez peut-être vu qu'il est question de 1260 jours et un peu plus tard de un temps des temps et la moitié d'un temps. Ça, c'est au verset 14. Et les 1260 jours, c'est au verset 6. En fait, 1260 jours, c'est exactement 3 ans et demi. Et donc, quand on dit un temps des temps et un demi-temps, c'est comme 3 temps et demi, c'est la même chose. Et ailleurs, dans le livre d'Apocalypse, il est question de 3 ans et demi ou l'équivalent. Ça, c'est la période pendant laquelle l'Église combat sur la terre. C'est nous autres, ça. Alors, voilà, un symbole qu'il faut reconnaître. Donc, nous sommes ce peuple de Dieu dans la fin des temps. Et donc, nous devons suivre l'exemple de ce que Dieu donne dans le texte. Cette mère, l'Église invisible, qui est soumise à des tensions, puis marche avec Dieu. On va regarder de plus près le texte pour voir comment on pourrait suivre l'exemple de cette femme, cette maman. Alors, elle est soumise à des tensions, à des forces qui la tirent dans des directions opposées. Premièrement, elle est glorieuse dans le ciel, puis plus tard dans le texte, on voit qu'elle est souffrante sur la terre. On va essayer de voir comment elle s'en sort là-dedans. Deuxièmement, elle est protégée par Dieu. Puis en même temps, on voit à quel point elle est vulnérable. L'histoire du dragon. En passant, on va parler plus du dragon la semaine prochaine. Donc, ceux qui aiment les dragons, venez la semaine prochaine. Enfin, il ne faut pas trop aimer le dragon, c'est notre ennemi. Elle est nourrie par Dieu et en même temps, elle est isolée dans le désert. Qu'est-ce que ça veut dire? Nourrie par Dieu pendant qu'elle est isolée dans le désert. Puis dernièrement, elle est la mère de Jésus, mais elle est aussi la mère des chrétiens. Alors, allons-y dans chacune de ces tensions et je vais essayer de nous guider dans des pistes pour nos vies. Premièrement, elle est glorieuse sur la terre, cette femme, cette église invisible, dans le ciel, pardon, et pourtant souffrante sur la terre. Donc, dans ce texte, on voit dès le début, dès le premier verset, c'est le grand signe. Cette femme apparaît comme la reine dans le ciel. Elle a une couronne sur la tête avec 12 étoiles. 12 étoiles qui signifient les 12 tribus d'Israël, qui peuvent signifier aussi les 12 apôtres. Donc, ça, c'est des chiffres qui nous ramènent au peuple de Dieu, à ceux qui fondent le peuple de Dieu. Vous vous souvenez du rêve de Joseph qui a vraiment fâché ses frères et il dit, voilà, le soleil puis la lune se sont prosternés devant moi, puis moi, j'avais une couronne d'étoiles, je crois qu'il y en avait 11 ou 12 sur la tête. Alors, donc, c'était pour dire que tout le peuple de Dieu allait le reconnaître comme le leader. Et cette femme, elle est vêtue du soleil, nous dit ce premier verset. Je ne vais pas me tromper de verset, là. Effectivement, elle est enveloppée du soleil. Comme Dieu est lui-même resplendissant de lumière. Psaume 104, verset 2. Dieu est enveloppé de lumière. Cette femme, elle reçoit un peu de la gloire de Dieu indirectement. Mais la lune est sous ses pieds. Ça, c'est intéressant. Il y a un commentateur qui a proposé que la lune représente l'Ancien Testament et le soleil, le Nouveau Testament. Donc, elle est comme toute entourée de la parole de Dieu qui l'a fait briller. Donc, enfin, c'est difficile d'interpréter chaque détail, mais on voit qu'elle a une gloire qui lui vient du ciel. Et dans un sens, elle est déjà dans le ciel, cette femme. Mais un peu plus tard dans le récit, voilà qu'elle est bel et bien sur la terre, cette femme. Puis non seulement ça, mais elle est fugitive, elle est en train de fuir. Et elle souffre terriblement. Elle est torturée parce qu'elle est à veille d'avoir un enfant. Elle va donner naissance au Messie. Jésus est né de la Vierge Marie, n'est-ce pas? Ça, on le sait. Mais la Bible dit aussi que Jésus est venu du peuple d'Israël, que le peuple d'Israël est un peu la mère de Jésus. La Bible va souvent critiquer les défauts d'Israël. Mais Israël a joué un rôle vraiment important. Israël a beaucoup souffert pour suivre Dieu jusqu'à ce que les conditions soient accomplies pour que Jésus vienne pendant des centaines et des centaines d'années. Israël a dû persévérer pour trouver son chemin dans la tension entre l'amour de Dieu, le choix de Dieu, puis la haine du monde. Israël a toujours été haï par le monde, persécuté par le monde, et Dieu l'a préservé, et le Messie est venu. Alors, pensons aux mamans maintenant. Les mamans, dans leur souffrance, elles sont courageuses. Pensons juste aux grossesses. C'est long et c'est pas facile, les grossesses, en général, la plupart du temps. Et puis, l'accouchement, n'en parlons pas. Puis déjà, vous êtes en train de me dire, il sait ce qu'il sait, de quoi il parle. Pas vraiment, non. Pas du tout. Mais c'est le thème d'aujourd'hui. Les femmes, les mamans gardent courage, en partie parce que la joie du bébé s'en vient. La joie de la venue du bébé va enlever une bonne partie de cette aigreur de la douleur qui peut être extrême. C'est ce que vit notre mère spirituelle dans le texte ici, que ce soit, et en particulier Israël, qui a en quelque sorte donné naissance à Jésus. C'est de ça que le texte parle ici. De la même manière que la maman qui donne naissance à un bébé, elle reste ferme, elle croit dans la souffrance, parce qu'elle sait que... Donc, elle regarde vers l'avenir et vers le haut. Nous aussi, on est appelés de la même manière, dans nos souffrances, à regarder vers l'avenir et à regarder vers Dieu. Et donc, je vous rappelle la vertu du courage et cette exhortation de Paul qui nous demande de regarder vers le haut, en particulier quand ça va mal. Comme les mamans qui attendent la fin de l'accouchement. Paul dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Toi aussi, il faut que tu accouches de Christ dans ta vie. Ça aussi, c'est frustrant. On veut devenir plus comme lui. On veut que notre caractère, notre comportement, nos paroles soient de plus en plus comme Jésus, nos actions. Et ça prend du temps à venir. Mais ça va venir parce que Dieu a mis Christ en toi si tu l'as reçu. Dieu a mis Christ en toi, puis c'est une question de temps que ça ressorte de plus en plus. Alors, dans ton combat, regarde à Dieu, sois patient, persévère. Alors ça, c'était pour la première tension. Glorieux dans le ciel, mais aussi souffrant sur la terre. La deuxième, c'est que cette femme est protégée, même si elle est vulnérable. Dans ce texte, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le dragon, qui est Satan, on va expliquer davantage la semaine prochaine, il se campe juste devant elle pendant qu'elle est en train d'accoucher. Il veut dévorer l'enfant au moment même où il naît. Mais ce qui est merveilleux dans ce texte, c'est qu'elle est inatteignable. Elle ne se défend même pas, mais le dragon n'arrive pas à l'atteindre. Elle est menacée par ce dragon qui est tout proche. Et Dieu, qui est comme son mari en quelque sorte, ça c'est un autre symbolisme de la Bible, que Dieu c'est l'époux du peuple de Dieu. Nous sommes son épouse. Eh bien, Dieu combat pour protéger la maman pendant que la maman accouche. Elle, il faut qu'elle fasse confiance. Il faut qu'elle laisse son mari la défendre. Son mari, c'est Dieu le Père. Et vous savez, dans l'histoire d'Israël, quand on lit l'Ancien Testament, Dieu y a vraiment défendu Israël. C'est comme si, parce qu'Israël, c'est une petite nation entourée de grosses nations. Et la promesse de Dieu, c'est si vous êtes fidèles à ma loi, moi, je vais combattre pour vous. Je vais aller devant vous avec mon bouclier invisible et mon épée invisible. Vous allez gagner des guerres et vous n'allez pas comprendre pourquoi. C'est moi qui vous protège. Puis, des fois aussi, quand Israël était infidèle, Dieu décidait, à un certain moment, de baisser le bouclier invisible, de mettre dans son fourreau l'épée invisible. Et là, Israël perdait une bataille. Et là, Israël avait peur. Et là, Israël paniquait. Et là, Israël était secoué et revenait à Dieu. Puis là, Dieu leur dit, « OK, on va remonter le bouclier invisible, on va ressortir l'épée invisible et je vais continuer à aller devant vous dans vos combats contre vos ennemis. » Protéger, bien que vulnérable. Même dans la vie de Jésus, on voit que, bon, il est souvent celui qui est par qui la puissance de Dieu se révèle, mais dans toute sa vie, il est très protégé par Dieu. À sa naissance, Satan aurait voulu qu'il meure, qu'il soit tué. Dieu l'a protégé. À Gethsémané, c'était comme l'inverse. Satan ne voulait pas qu'il meure. Il voulait que Jésus renonce à son projet. Il lui a donné ce désir que cette coupe s'éloigne de lui. Et Dieu l'a protégé comment? En lui rappelant quel était le plan. Et Jésus, il a prié, « Non pas ma volonté, mais la tienne, Père. » Et le plan de Dieu a été protégé. La vertu à imiter ici, que ce soit celle de Jésus, que ce soit celle du peuple de Dieu, l'humilité, c'est de comprendre que je suis protégé. Même si je vois des dangers autour de moi. Un verset qui peut nous aider avec ça. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps voulu. Est-ce que je dois peut-être me repentir d'une situation où je me défends moi-même, au lieu de laisser Dieu me défendre? Dans ta situation, ma sœur, mon frère, Dieu te protège. Et ta relation avec lui est précieuse. Il va la protéger aussi. Une troisième tension où on voit cette femme, et qui est un exemple pour nous, elle est nourrie par Dieu, bien qu'elle est aussi isolée dans le désert. Elle est appelée même à aller dans le désert. Parce que le désert, c'est le lieu de proximité avec Dieu. Dans la Bible, le désert, c'est l'endroit où on est proche de Dieu et où Dieu peut nous nourrir mieux qu'ailleurs. C'est pas pour rien que lorsqu'on organise des retraites d'église pour rencontrer Dieu, souvent, c'est pas le grand luxe ou le confort dernier cri que nous recherchons, bien que si c'est au chalet des Tracis, il y a ça aussi. Je blague un peu, là, mais c'est justement l'éloignement de l'attrait du monde qui va être la valeur qu'on recherche. Parce qu'on sait, intuitivement que c'est là qu'on va mieux entendre Dieu. Israël, pour pouvoir apprendre à marcher avec son Dieu, pour pouvoir apprendre sa loi, Israël a été appelé dans le désert pour cet apprentissage. Jésus a fait la même chose pour passer du temps avec son Dieu. Il allait dans le désert. On le retrouve souvent dans les évangiles, dans le désert, en train de communier avec son Père. En revanche, le dragon, lui, quand il veut nous vaincre, c'est en nous rappelant l'attrait du monde, souvent, les soucis du monde, les soucis de la vie dans le monde, l'attrait des richesses du monde, les désirs et les orgueils du monde. Je pense que ce fleuve qui est vomi de sa bouche vers la fin du chapitre, qu'il essaye d'atteindre la maman, je pense que c'est l'attrait du péché qui est ce fleuve. Mais elle est trop loin entre le fleuve et puis la femme, il y a le désert, elle est loin dans le désert, le fleuve ne peut pas se rendre. Et donc, elle est comme on pourrait dire, inatteignable. Et on va voir que Satan va aller vers les autres enfants de Dieu pour les engloutir dans ce fleuve qui peut les emporter, qui peut m'emporter moi-même. Quand on est avec Dieu dans le désert, on est bien parce qu'on vit de son amour et rien d'autre. On doit vivre par la foi parce que les supports habituels de ma vie ne sont pas là. C'est ça que vit la femme dans cette histoire. L'Église idéale, elle est dans le désert, c'est-à-dire elle est coupée de beaucoup de choses pour pouvoir s'abreuver de la parole de Dieu, loin de ce fleuve de tentation. Alors, la vertu à imiter, ça serait la simplicité. Regardons à la simplicité de cette femme, notre mère, qui accepte de suivre Dieu dans le désert. Elle rejette l'attrait du monde et préfère la simplicité qui est dans le désert avec Dieu. Puis moi, aujourd'hui, et toi, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire dans notre vie pour recevoir plus de nourriture de Dieu dans le désert? Parfois, c'est des décisions simples. On peut commencer par quelque chose de facile. J'ai un ami qui a dit, « Mais moi, je suis un fanatique du hockey, mais je suis aussi un fanatique de Jésus. Pendant un mois, je vais arrêter de regarder le hockey. » Et c'est ce qu'il a fait. Et de fait, ça l'a aider à prier plus, à se retrouver plus avec le Seigneur. Puis là, le mois, il a arrêté, puis il a découvert que toutes ses équipes préférées étaient éliminées des éliminatoires du hockey. Fait que je pense qu'il a juste continué à ne plus regarder le hockey. Et voilà le genre de décision simple que nous, dans notre combat dans le monde, c'est pas aussi glorieux que la femme. Mais la femme, elle nous inspire à faire des petits pas. Hein? Donc, je pense à, et je ne veux pas la mettre mal à l'aise, mais notre sœur Louise, qui me dit qu'elle a commencé à lire la Bible presque à chaque jour, depuis pas longtemps. Tu t'es acheté même un cahier pour écrire tes réflexions. Et est-ce que ça te fait du bien? Ça te fait du bien? Ah, non, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et c'est un peu comme aller au désert pour être nourri par Dieu, hein? Même si c'est juste 15 minutes ou 30 minutes. Oui, discipliné, oui. Merveilleux. Oui, je crois aussi que tu te sers également du petit livret que Mimi donne à ceux qui le désirent, le pain quotidien, qui peut être un bel instrument pour nous aider. Mais peu importe ce que c'est, aller vers le désert, hein? On est nourri par Dieu, plus on est isolé dans le désert, c'est-à-dire proche de lui, et loin des distractions du monde. Et je sais que chacun de vous vit dans le monde. Alors, il faut trouver des stratégies. simplifier ma vie, recevoir plus de nourriture de Dieu dans le désert. Moi, le Seigneur, il m'a parlé dernièrement à travers un verset que je veux partager avec vous, que j'ai appris par cœur. Je vais le... Est-ce que Ecclésiaste 10:10 est derrière moi? Je vais essayer de le dire par cœur, hein, parce que je suis en train de... Avancer une fois? Ah oui. Voilà, OK. Non, il n'est pas là? Ah, OK. Bon, ça veut dire qu'il n'apparaîtra pas, mais je vais vous le dire. Il est vraiment bon. Ecclésiaste 10:10. S'il a usé la hache et ne l'a pas aiguisée, il devra redoubler de force. La sagesse a l'avantage de donner le succès. Ça, c'est Ecclésiaste 10:10. S'il a usé la hache et ne l'a pas aiguisée, il devra redoubler de force. La sagesse a l'avantage de donner le succès. Alors, c'est l'histoire d'un bûcheron, de quelqu'un qui utilise une lame dans son travail. S'il use la lame sans l'aiguiser, bien, il va être forcé de travailler plus fort pour un résultat moindre. Donc, la sagesse nous dit, aiguise ta hache, puis comme ça, tu vas être plus efficace. La sagesse a l'avantage de donner le succès. Écoute la sagesse. Donc, on peut appliquer ce verset qui parle de couper du bois, mais en fait, parle aussi de la vie spirituelle en disant, fais ce qui doit se faire pour aiguiser ta hache spirituelle. Puis ça, c'est aller dans le désert, être nourri par Dieu, écouter Dieu. Les disciplines spirituelles dont on va parler de plus en plus dans l'Oasis, à commencer par la méditation de la parole. Aiguisons nos haches dans le désert. Et bon, là, on est quelque part, je ne sais pas où. On est dans l'océan. Et on va aller au quatrième point, la quatrième tension. L'Église ou le peuple de Dieu, l'Église invisible, est la mère de Jésus, mais elle aussi la mère des chrétiens. Hein? On voit à la fin de cette histoire, le dragon, il essaye d'engloutir la mère, la maman, et donc le petit, l'enfant mâle. Il voit qu'il n'est pas capable, il voit qu'il est vaincu, alors il se tourne vers, avec son fleuve de tentation, de destruction, il se tourne vers les autres enfants de la femme, qui sont ceux qui gardent le témoignage de Jésus dans le monde. OK, ça c'est nous. OK, alors, ça c'est très important, puis on va en parler un peu plus la semaine prochaine. Nous, on a affaire à un ennemi déjà vaincu. Parfois, les ennemis déjà vaincus, ils se débattent deux fois plus fort. Mais, dans un sens, ils sont mille fois moins dangereux, sont déjà vaincus. Il faut juste les surveiller. Il faut juste bien les surveiller parce que tu peux te faire pincer puis très, très fort. Mais il est déjà vaincu. Lui, il voulait empêcher l'enfant mâle de naître. Ça a été un échec total. Ses jours sont comptés, nous dit le texte. Mais, de la même manière que cette maman s'est occupée de Jésus, eh bien, Dieu, à travers cette maman, s'occupe de nous aussi. Alors, ça peut paraître un peu bizarre comme langage, mais Jésus vivait en communauté. La communauté s'occupait de lui. De la même manière, nous aussi, nous devons être connectés à notre... OK, là, je suis perdu, là. Nous devons être connectés à la communauté qui est un peu notre maman. Et donc, Dieu s'occupe de nous à travers elle. Donc, je vais juste vous expliquer ça. La mère est attachée à ses enfants, nous devons rester attachés à elle. Et voici un verset, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Il y a un attachement mutuel entre le peuple de Dieu et l'enfant de Dieu qui nous protège. C'est vrai qu'on peut aller trop loin dans cette réalité. Hein? On doit chacun être individuellement solide dans notre relation avec Christ, mais on a besoin de la communauté. On a besoin presque comme d'une maman. Et je vois aussi en tant que pasteur ceux qui sont pris par ce fleuve de l'attrait du monde ou des soucis du monde. Le premier signe, souvent, c'est qu'on ne les voit plus à l'église. Ils n'ont plus le temps. Il y a des soucis trop grands. Et oui, il faut avoir compassion, il faut prier pour eux, mais soyons vigilants. C'est comme ça que l'ennemi vaincu va essayer, dans son dernier effort, de t'avoir. C'est de t'éloigner du peuple de Dieu. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Exhortons-nous réciproquement. On doit s'encourager. Ce n'est pas facile d'appeler quelqu'un puis lui dire, « Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu le dimanche matin. » Les gens n'aiment pas ça quand on le fait, puis n'aiment pas ça quand on ne le fait pas. Alors, c'est très délicat. Mais ayons ce désir, en tout cas, d'avoir compassion pour ceux qui vivent cette tension. Je parlais à une sœur qui dit, « Mais Marc, tu ne te rends pas compte la pression sur les nouveaux venus au Canada qui sont souvent aussi les nouveaux venus dans les compagnies et c'est à eux de travailler le dimanche. Pendant des années et des années et des années, c'est difficile de dire, « Mais moi, j'ai une autre priorité le dimanche. » J'ai dit, « Je vais prier pour toi, ma sœur. Je vois ton cœur. » Il faut combattre, il faut combattre. Il faut rester attaché. Peut-être trouver des solutions pour rester attaché. Je me souvenais d'un frère ici qui était obligé de travailler le dimanche. Ben lui, c'était le groupe des hommes qui, à l'époque, se réunissait le mercredi matin. Il était là à chaque fois, parce qu'il n'était jamais là le dimanche. Il sentait qu'il ne pouvait pas. Chacun doit trouver une solution dans la tension qui lui sera appropriée. On va arrêter avec une conclusion. On voit que les mamans sont bonnes pour trouver des solutions dans les tensions. Et notre maman, le peuple de Dieu, le peuple éternel de Dieu, glorieuse dans le ciel, souffrante sur la terre. Protégée bien que vulnérable, nourrie de Dieu parce que isolée dans le désert. Elle est protégée aussi dans le désert. Et finalement, elle est mère de Jésus, mais ça n'arrête pas là. Elle est notre mère à nous. Imitons donc les vertus que nous voyons dans ce texte. Le courage, l'humilité, la simplicité, l'attachement dans l'amour. Et lorsque nous vivons les attaques de l'ennemi, sachons qu'il est déjà vaincu et qu'on peut vivre les épreuves, on peut vivre la souffrance. Dans la foi, ça va nous rendre plus forts. Ça va nous mener vers quelque chose de meilleur. Je vous laisse avec un dernier texte. Mes frères et sœurs, ça c'est Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles vous êtes exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Prions. Père, je sais que ce texte est pour nous compliqué. Il a beaucoup de mystères. Et je veux te remercier en tout cas pour la sagesse que tu as pu me donner, bien que, oui, pour comprendre au moins certaines choses, disons. Et Seigneur, je prie que chacun puisse prendre au moins un point avec lui, avec elle à la maison, pour sa vie spirituelle, pour son encouragement en Christ. Père, je prie que tu fasses de nous une église qui ressemble de plus en plus à cette dame, à cette femme dans Apocalypse 12, qui est glorieuse dans la souffrance, qui est protégée dans la vulnérabilité, qui est nourrie par Dieu dans le désert, et qui est attachée à nous comme nous devons rester attachés à elle. Aide-nous, Seigneur. Continue à nous diriger. Au nom de Christ.